exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h40 au Mali, où les élections présidentielles et législatives prévues le 27 février semblent bien compromises. Il y a deux semaines, sur RFI, le Premier ministre Choguel Maïga n'excluait pas un report des scrutins. Il vaut mieux quelques mois de plus que de retomber dans une crise, avait-il dit, et d'expliquer que le calendrier électoral sera fixé à la fin des assises nationales qui rassembleront durant un mois toutes les forces vives de la nation. Autrement dit, si on comprend bien les propos du Premier ministre, c'est à travers de ce grand dialogue que les Maliens décideront s'il faut, oui ou non, reporter les élections. Et comme pour préparer les esprits, eh bien lundi, le ministre malien des Affaires étrangères a lui aussi évoqué la perspective du report des élections si la situation sécuritaire n'était pas prise en charge. Le ministre Abdoulaye Diop a fait référence, je le cite, au désengagement de la France qui risque, je cite encore, de créer un vide sécuritaire que l'État malien doit combler. Alors que vous inspire ces différentes déclarations? Se dirige-t-on vers une prolongation de la transition? Quelle sera la réaction de la CEDEAO qui fait du respect du calendrier une exigence? On en parle durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et vos réactions évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Ousmane sur WhatsApp qui nous dit: la majorité des Maliens est d'accord pour reporter la date des élections. La refondation du Mali d'abord. Bonjour Aliou.
Bonjour.
Faut-il, selon vous, reporter les élections ou maintenir la date du 27 février?
Moi, je pense qu'il faut reporter, mais je répète encore, il ne faut pas reporter pour reporter, parce qu'au fait, aujourd'hui, on doit pouvoir faire un état de lieu de ce qui a été déjà fait et de ce qui reste à faire pour fixer un timing bien précis, parce que les hommes restent des hommes. Si aujourd'hui, on ne cadre pas la transition, c'est vrai que le rôle d'une transition n'est pas là pour tout faire, mais aujourd'hui, on doit déposer les jalons. Ces jalons, ça veut dire quoi? La réforme électorale et institutionnelle, le vide institutionnel qui existe, le code électoral doit être révisé et la sécurité aujourd'hui reste des priorités au Mali.
Oui, mais alors ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas de réforme électorale et tant que la sécurité n'aura pas été restaurée sur l'ensemble du territoire, il ne pourra pas y avoir d'élection.
Absolument.
Absolument. Rétablir la sécurité, ça peut demander des années, Aliou.
Oui, mais pourquoi je dis ça? En termes de sécurité, aujourd'hui, on doit quand même être capable de dire aujourd'hui un certain nombre de Maliens peuvent vaguer librement à leurs occupations. Ça, c'est un élément fondamental. L'ensemble ne peut pas être sécurisé aujourd'hui, comme vous venez de dire, on va attendre des années, mais il faut fixer un timing. Et des hommes qui sont là, ils sont capables de dire en combien de temps on peut arriver à une sécurité peut-être à 40%. Il faut qu'on nous dise. Et la CEDEAO devait être là pour évaluer ces aspects avec les différentes missions qu'ils ont eu à faire.
Aliou, on a bien compris, on vous laisse décrocher parce que visiblement vous avez une autre ligne de téléphone et on essaye de vous contacter. Merci d'avoir lancé le débat. Mamie nous a écrit sur Facebook, elle affirme que pour qu'il y ait des élections, il faut que les politiques puissent faire campagne dans le nord du Mali. Oui au report des élections jusqu'à la stabilisation de notre pays. C'est dans notre propre intérêt, dit-elle. Et de conclure, nous ne permettrons à personne de venir nous dicter comment gérer le Mali. Nous sommes assez grands. Abdoul Salam, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes
bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako. Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Juan, aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas surprenant de constater un probable report des élections de février 2022. Parce que jusqu'aux premières heures, aux premiers jours de cette transition, les autorités, notamment les auteurs du coup d'État, n'ont posé aucun acte qui prouve qu'ils avaient la volonté d'organiser ces élections-là. Je pense bien que des personnes averties avaient déjà signalé. Vous avez vu, même la communauté internationale avait déjà écrit pour demander vraiment la publication du calendrier électoral. La classe politique ici au Mali l'avait déjà signalé. La CEDEAO avait déjà signalé. Parce que tous, nous étions convaincus qu'il n'y avait pas de démarche allant vers l'organisation des élections. Deuxièmement, il se base sur quelques aspects, notamment l'aspect sécuritaire et les réformes électorales. One, aujourd'hui, ils sont en train d'organiser au Mali des assises. Dans les TDR, ils ont signalé que ces
assises... Des assises, donc grand dialogue national, ces assises doivent commencer dans 10 jours.
Effectivement. Ils disent que ces assises seront organisées dans toutes les communes, cercles et régions du Mali. Maintenant, par quel miracle ils passeront pour sécuriser ces localités-là pour organiser des assises et qu'ils ne pourront pas le faire pour organiser des élections?
Alors ça, donc, c'est une très très bonne remarque, Abdoul Salam. C'est vrai qu'il est prévu que ces assises commencent d'abord dans toutes les communes du Mali. Hein, c'est écrit noir sur blanc, dans toutes les communes du Mali. Donc si on peut organiser des assises partout au Mali, on peut donc organiser une élection partout au Mali, effectivement, Abdoul Salam. Donc, que cachent les propos, selon vous, du ministre des Affaires étrangères, des propos tenus cette semaine?
En réalité, nous constatons clairement et nettement qu'il n'avait pas la volonté d'organiser les élections en février 2020. Tout était préparé pour cela. Les assises ont été initiées pour avoir du temps. Vous allez voir les projets qu'ils annoncent, notamment les réformes, notamment les assises. Ils ont pris plus de temps dans les annonces même que la mise en œuvre de ces projets-là, juste pour avoir du temps. Moi, je pense que c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, vu les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sont énormes. La charge est tellement lourde qu'on ne peut pas charger une équipe de la transition pour résoudre ces problèmes du Mali aujourd'hui. Il faut une équipe légitime dont la population pourra avoir la chance de porter leur confiance sur une équipe qui va faire face à ces problèmes-là. Oui. Il faut éviter de penser que la transition doit tout faire.
Alors, justement ce que nous dit Hassan hein, sur Facebook. Il estime que les autorités de la transition n'ont aucune légitimité pour s'éterniser au pouvoir. On leur demande de mettre en place une commission électorale indépendante et consensuelle pour organiser les élections afin d'avoir des dirigeants légitimes qui, eux, lutteront contre les terroristes. Voilà l'analyse de cet auditeur. Merci infiniment, Abdoul Salam, d'avoir été avec nous. Vous parliez des assises nationales. Elles sont censées démarrer le 25 octobre. Elles vont durer un mois, le 21 novembre. Elles se termineront à Bamako avec l'adoption des résolutions finales. Et peut-être qu'à ce moment-là, on connaîtra la date exacte de la tenue des élections et donc de la fin de la transition. Amadoum, bonjour.
Oui, bonjour, Van.
Alors, se dirige-t-on vers un report des élections?
Oui, Van, je suis vraiment mitigé. Hein, et moi, je suis pour les élections et contre la prolongation. Mais aujourd'hui, je suis vraiment mitigé puisque, comme Aliou l'a dit, les autorités n'ont montré aucune volonté pour préparer ces élections. Et aujourd'hui, si on dit qu'en 3 mois sur le Mali, on peut organiser des élections, c'est vraiment se cacher la face.
Oui, enfin, excusez-moi.
Le pire, comme
Allez-y, Amadoum, je vous ai coupé la parole.
Oui,
allez-y.
Je dis le pire aujourd'hui, et on nous dit qu'on va faire des assises même dans les hameaux, dans les villages. Et quand vous entendez ces mêmes autorités, ils vous disent qu'à cause de l'insécurité, on ne peut pas faire des élections. Et ce sont les mêmes hameaux, les mêmes villages qui vont faire ces mêmes assises. Donc, il y a une mauvaise volonté, il y a vraiment une mauvaise volonté. Et pire que la mauvaise volonté, je crois qu'il y a une incompétence. Il y a une incompétence. Et j'ai l'habitude de le dire sur votre radio, oui, que la première des choses pour laquelle on a chassé Ibeka, c'est à cause de l'insécurité. Et cette insécurité aujourd'hui, si elle n'est pas elle n'a pas augmenté, rien n'a diminué là-dedans. Niono aujourd'hui, peut-être tous les villages sont dans la ville de Niono. Mmh. Même s'il y a ouverture d'école demain, toutes les écoles sont occupées par les villageois.
Oui, donc vous avez l'impression que depuis le début de la transition, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, alors que ce sont des militaires, en tout cas un militaire qui est à la tête du pays. Amadoum, merci infiniment. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Vous nous appelez 339 693 693 70. Haruna, lui, encourage les autorités de la transition à prendre tout leur temps. Il faut d'abord en finir avec le terrorisme et pacifier le pays. Ensuite, nous organiserons des élections libre et transparente. Et ce n'est pas à la France ou à la CDAO de nous imposer un agenda. C'est vrai que la communauté internationale exige que le calendrier de la transition soit respecté. Calendrier de 18 mois, c'était d'ailleurs la principale exigence de la CDAO après le coup d'État d'août 2020. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Bonjour Ousmane. Vous nous entendez bien? Il y a un peu d'écho là où vous êtes. On va tendre l'oreille. Allez-y.
Oui, je vous entends bien.
Alors bonjour. Non, alors attendez, il y a de l'écho, Ousmane. Peut-être déplacez-vous, mettez-vous à l'extérieur et on vous récupère dans un instant, si vous le permettez. Comme ça, on pourra mieux vous entendre et mieux vous comprendre. Abdoulaye nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour ouais. Abdoulaye, soyez le bienvenu. Abdoulaye, que vous inspirent les récentes déclarations aussi bien du ministre des Affaires étrangères que du Premier ministre Choguel Maïga concernant un éventuel report des élections?
Vous savez, hein, tous ces discours-là visent à préparer les populations à accepter ce qui pourrait être l'une des conclusions des assises, c'est-à-dire le report de la transition, la prolongation de la transition. Et moi, je suis foncièrement contre la prolongation de la transition. Pour la simple raison que la transition n'a jamais rien réglé nulle part. Surtout la transition militaire, qui finit par s'imposer par la répression. Les Maliens en savent déjà beaucoup.
Oui, hein. Mais enfin, là, pour l'instant, vous faites un procès d'intention, il n'y a pas de répression.
Oui, je sais, mais bon. Ça finira par ça. La transition militaire, c'est toujours comme ça. Ça commence très bien. Voilà, ils s'efforcent à une cordialité, en réalité, qui sonne faux. Voilà, et après, ça va finir par la répression. Tout le monde voit leur intention de s'accaparer de tout le pouvoir.
Oui, mais enfin, là vous êtes dans la politique fiction, Abdoulaye, puisque vous êtes convaincu qu'à terme, il y aura de la répression. Pour l'instant, il n'y en a pas, Abdoulaye, donc ne faisons pas de la politique fiction. Les raisons invoquées, elles vous semblent justifiées, les raisons invoquées par le ministre des Affaires étrangères, l'insécurité?
Mais ils n'ont rien fait pour lutter contre l'insécurité. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Pour qu'on accepte de prolonger la transition, il faut quand même poser des actes. Ça se prolonge sur la base de certaines réalités. Le Premier ministre, qui a un manque d'idées par rapport à la demande sociale, a tout organisé autour du président pour justifier cette prolongation. On a mis le peuple devant le souhaitable et le faisable. C'est un cas d'école, quoi. Manipuler un peuple en détresse et lui mentir pour arriver à ce fait.
Bon, vous avez la dent dure, en tout cas, il va y avoir des assises nationales où, théoriquement, tous les Maliens sont invités à s'exprimer.
Non, ce ne sont pas tous les Maliens. Ils vont choisir des gens. Ils ne pourront pas aller dans des localités où il n'y a même plus personne. Il y a des villages qui sont vides aujourd'hui. Les gens ont quitté les villages.
Oui, bon, alors il ne s'agit pas d'organiser non plus des assises dans des villages où il n'y a plus personne, Abdoulaye. Mais enfin, voilà, vous êtes critique, très critique, c'est votre droit, vous vous êtes exprimé. Merci d'avoir appelé et bonne continuation à vous. A-t-on récupéré Ousmane ou est-il sorti du hall de sa maison? Ousmane?
Oui, bonjour.
Ah, on vous entend nettement mieux, il n'y a pas d'écho. Ousmane, est-ce que vous êtes d'accord avec Abdoulaye, ces assises nationales, tout ça c'est un moyen pour acter une prolongation de la transition, retarder l'organisation des élections?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Abdoulaye. Là où nous sommes actuellement, on ne peut pas parler d'élections. Moi, je suis pour la prolongation de la transition. C'est les politiques qui ont failli. Ils n'ont plus de crédibilité. C'est ça qui nous a amenés dans cette situation. La communauté internationale a tous les moyens aujourd'hui pour retourner au Mali sa souveraineté totale. Mais ça ne se passe pas. Comment peut-on organiser une élection juste, transparente, dans un pays où les deux tiers sont occupés, plus de deux tiers? Les élections, ce n'est pas Bamako. C'est pas Bamako.
Mais alors donc, excusez-moi, je me répète, le premier auditeur disait à peu près la même chose que vous, Ousmane. Restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien, cela peut demander des années. Donc la transition peut être reportée d'année en année?
One, la paix n'a pas de prix. La paix et la sécurité n'ont pas de prix. Il faut que les gens sachent que le Mali est un pays en guerre. C'est pas une ville ou une région qui est prise, mais c'est l'ensemble du territoire malien qui est menacé, de Paris jusqu'à Kidal. Il faut qu'on arrive, qu'un citoyen lambda arrive à voter et qu'il soit sûr que son élection ne soit pas volée.
Oui. Alors Ousmane, que dire en quelques mots, que dire à la communauté internationale qui demande aux autorités de la transition de respecter le calendrier initial, à savoir une transition de 18 mois?
La communauté internationale va donner un sursis à la transition pour pouvoir faire un toilettage du point de vue sécurité, du point de vue système électoral. Ouais. Donc, ils doivent donner un sursis.
Et donc,
je ne demande pas à ce que les militaires s'éternisent au pouvoir, mais la politique aussi n'est pas la solution. Le coup d'État de 2018, c'est parce que le président n'était pas légitime. Il y a eu des tripatouillages. C'est ça qui lui a fait tomber.
Donc, donnez-nous...
De 2018, excusez-moi Ousmane, je suis perdu dans les dates, de 2020.
Oui, il est tombé en 2020. Voilà, justement. Voilà.
Non, mais comme donc, vous êtes sur place, donc mieux informé que moi, mais voilà, il y avait une petite faille dans cette date. Mais enfin, en tout cas, Ousmane, merci infiniment. Je vous interromps parce que je regarde la pendule. Il nous reste 5 minutes, il y a encore beaucoup de monde qui souhaite prendre la parole et j'aimerais que le plus grand nombre d'entre vous puisse s'exprimer puisque c'est un sujet qui concerne évidemment l'ensemble des Maliens et en tout cas de tous ceux qui nous appellent. Peut-être Ibou. Bonjour Ibou.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous disiez au Standard, aujourd'hui je suis désemparé.
Bah oui, effectivement, moi je suis désemparé parce que je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, bah, comment est-ce qu'on va faire les élections, surtout que ça a été annoncé par la transition. Les leaders, les dirigeants de la transition l'ont annoncé, mais je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, à peu près 340 km de Bamako, hein, y a un paysan qui s'est fait égorger. Hein. Malheureusement, ces tortionnaires l'ont fait subir un interrogatoire. Après l'interrogatoire qu'ils ont filmé, ils l'ont égorgé, ils ont pris le couteau et ils l'ont mis le couteau à la gorge devant tout le monde. Et ils ont distillé cette image sur les réseaux sociaux. Alors quand il y a des choses comme ça dans un pays, franchement, quelqu'un le disait à l'instant, il y a plus de 2/3 du territoire qu'on ne contrôle plus, ça ne va pas du tout.
Donc que faire, Ibou? Que faire? Que faire? Alors vous-même, vous vous posez la question, mais est-ce que vous avez un élément de réponse? Est-ce qu'il faut reporter la transition ou organiser coûte que coûte des élections et aux autorités légitimes?
À mon avis, il faut que nous soyons accompagnés par la communauté internationale, mais qu'elle s'y implique réellement et que tous les partis politiques, tous les politiques qui sont dans ce pays-là, ainsi que la société civile, tous se mettent ensemble et décident ensemble. Ce n'est pas une seule personne qui peut décider de ce qu'il faut faire. Il faut évidemment aller vers un report, mais avec l'ensemble des Maliens. Même les partis qui refusent aujourd'hui d'accompagner la transition, eh bien, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils parlent ensemble et qu'ils essaient de voir comment on peut faire cela. Oui. Sinon, même les assises qu'ils veulent faire dans les villages, dans les communes, je me demande comment ils vont le faire. Hein. Je me demande comment ils vont y aller dans ces villages et dans ces villages désertés où tous les jours les gens se font tuer. Militaires, y compris civils.
On termine avec merci Ibou, c'était pertinent, bonne journée à vous à Bamako. Daouda n'est pas très loin de Bamako, il est à Kati. Bonjour Daouda.
Oui, bonjour Monsieur Oran.
On vous écoute et c'est vous qui allez conclure ce débat pour aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup et bonjour à toutes les auditeurs. Et la situation actuelle du Mali fait que tenir les élections en février est courir le risque d'entraîner le pays dans un chaos, car rien ne garantit que l'élection peut se tenir dans les bonnes conditions et que les résultats vont être vraiment acceptés par tous. Monsieur Ouran, aujourd'hui, ceux qui crient aux élections, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont crier après pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les résultats. Donc, laissons à la transition le temps de réunir le minimum de conditions afin de tenir des élections.
Oui.
Comme on le dit chez nous, à force de marcher sur un pied cassé, on finit par en être amputé, c'est aussi clair que ça.
Oui, j'entends bien, et c'est un bon proverbe, effectivement, Daouda, mais à un moment donné, il va falloir établir un calendrier, et pour l'instant, on n'a pas la moindre date. La seule date, enfin, les seules dates connues, référendum constitutionnel prévu le 31 octobre. Bon, nous sommes le 13 octobre, autant dire qu'évidemment, on met une croix là-dessus. Élection présidentielle et législative le 27 février. Voilà, c'est la seule date, maintenant, qui est connue de tous, mais il va falloir un calendrier un peu plus détaillé.
Oui, M. Ouran, ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le moment opportun est là pour faire des élections, nous n'avons pas besoin de les créer sur toutes les toits. C'est-à-dire que le besoin, c'est-à-dire que d'aller vers les élections va s'affirmer d'elle-même. Voilà, ça c'est un point. C'est-à-dire que dans toute prévision, il faut que les gens comprennent une chose. Une prévision, c'est-à-dire que n'est qu'une projection, ce n'est pas une vérité absolue.
Ce n'est pas une vérité absolue. Donc, donc les dates peuvent se modifier au fur et à mesure de la transition. En tout cas, le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion de vous redonner la parole, évidemment. Demain, on parlera du Burkina Faso, où face à la recrudescence des attaques terroristes, le président Kaboré a procédé à des changements à la tête de l'armée nationale depuis hier. Le général Ouédraogo est le chef d'état-major de l'armée. Et il aura comme mission de remobiliser les troupes, de réorganiser l'armée. On en parlera évidemment demain et vous nous direz si ça suscite un certain espoir.
Banque Atlantique présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Et je vous laisse avec Caroline Paré. Bonjour Caroline.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, vous nous parlez ce matin de ces étudiants en médecine qui ont choisi la psychiatrie.
Et c'est en fait à la contre-courant parce qu'aujourd'hui, cette spécialité de la médecine attire de moins en moins. Crise de vocation, crise de cette discipline qui manque de moyens, d'effectifs. Paradoxe, hein, parce qu'on sait que les besoins en santé mentale n'ont jamais été aussi importants, surtout après la crise sanitaire. Devenir psychiatre en 2021, c'est tout de suite dans 10 minutes.